Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Papy Charlie.
L'alimentation joue un rôle important sur le style de vie d'un être humain. Selon les experts, certaines habitudes alimentaires pendant l'enfance, l'adolescence ou encore l'âge adulte peuvent avoir des conséquences sur la santé. Chez la personne adulte, par exemple, la consommation de certains aliments et l'inactivité physique sont souvent à la base de maladies cardiovasculaires. Comment manger et vivre sainement, professeur Jacques Paulus?
Oui. Bien, c'est évident que l'alimentation est un des piliers de la santé, avec une hygiène de base et le sommeil. Donc ce sont trois piliers vraiment qu'il ne faut pas négliger. Et il faut veiller à ce que ces trois piliers soient établis avant de penser à prendre un médicament. Parce que les gens, souvent, lorsqu'ils ont un problème de santé, on cherche des médicaments. Mais ils ne regardent pas si ils ont de l'hygiène de santé. Vous avez parlé d'avoir du mouvement, d'être actif. L'homme n'a pas une physiologie et une anatomie pour être assis à un bureau tout le temps, mais pour être dans la nature, pour se promener, pour agir. Et le problème d'hygiène élémentaire, d'avoir de l'eau potable, de savoir ne pas être dans un endroit enfumé, etc. Le repos, si on ne dort pas, assez, parce qu'on est tout le temps devant sa TV ou parce qu'on travaille trop, on ne doit pas s'attendre à ce que des médicaments remplacent ces trois éléments.
Donc, pouvez-vous rappeler les trois éléments, professeur?
Il y a une hygiène de base, il y a l'alimentation et le repos.
Et le repos.
Oui.
Donc, ce sont les trois éléments
à
observer.
Il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont trois qui sont simples, qui sont, disons, à la portée, j'allais dire. Pour l'alimentation, c'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Mais là, il faut alors avoir des stratégies. Peut-être d'avoir un petit jardin et soi-même de produire ses légumes si on veut avoir des légumes sains. Le mieux, c'est de les cultiver dans son jardin. Et comme ça, on sait qu'on n'y a pas mis du DDT ou d'autres choses du genre.
Donc, vous voulez dire qu'il faut beaucoup plus manger des légumes à la place de la viande et autres aliments?
Non, je n'irai pas jusque-là, mais je crois que je dis qu'il est possible pour un quinoa, par exemple, d'avoir des légumes dans son jardin. Et déjà, certains légumes sont quand même fort riches, comme le quinoa à la cage, est très riche en protéines. Maintenant, il y a l'arbre moringa, dont les gens parlent beaucoup comme arbre pharmacie, mais n'oublions pas que c'est d'abord un arbre légumier. Il y a moyen de faire un excellent pondu, non pas avec des feuilles de manioc, mais avec des feuilles de moringa. Jamais encore mangé l'autre jour, c'était délicieux.
Oui, mais certaines personnes pensent que la plupart des maladies que nous connaissons aujourd'hui sont liées à l'alimentation. Est-ce que c'est le cas, professeur?
Vous dites que certaines personnes sont...
La plupart des maladies que nous connaissons aujourd'hui, certaines personnes pensent que c'est lié à l'alimentation.
Il faut pas être unilatéraliste, il y a du tout. Si vous vivez avec une personne qui a la tuberculose et que vous attrapez la tuberculose, ce n'est pas à cause de l'alimentation. Mais je dis bien que si vous êtes bien nourri, vous avez des chances de ne pas contracter la tuberculose, parce que votre organisme, s'il a assez, de transgénome de protéines, peut faire des anticorps, et donc vous pouvez résister à un certain nombre de maladies. Il faut tenir compte de tout. C'est comme une table qui a trois pieds. Je vous allais dire, mais sur lesquels des trois qui portent la table? C'est les trois. Il faut que les trois soient là pour que la table ne s'écroule pas.
Oui. Alors, on vous appelle souvent professeur Kika Lakasa. Vous êtes parmi les chercheurs qui ont trouvé cette plante. Alors, qu'est-ce que le Kika Lakasa, par exemple, peut apporter?
D'abord, une petite rectification. Oui. Ce sont vos ancêtres qui ont découvert le kika lakasa, qui était donc considéré comme, si on peut dire, une plante sauvage. Mais donc, la plante sauvage devient plante alimentaire au moment où les hommes découvrent sa valeur. Et donc, ce sont vos ancêtres qui l'avaient découvert. Ce qu'il y avait, c'est que le kika lakasa était en train de tomber dans l'oubli. Parce que les gens, surtout en ville, aiment ce qu'on achète et qu'ils savent va plus vite que de le cultiver. Et le kikalakasa, poussant tellement facilement, était considéré comme une plante de pauvre, parce que justement, il suffisait d'aller dans le fond du jardin pour l'accueillir. Alors, il y a aussi des gens qui aiment mieux ce qu'on a chaud et qui est cher, hein, certains quinois. Mm-hmm. Bien, ce qui est cher pour montrer qu'ils ne sont pas des pauvres, des misérables, mais comme le bon Dieu donne les choses les meilleures aux pauvres, ben, le kikalakasa était le meilleur des légumes, ou un des meilleurs légumes. Oui, alors vous vous demandez qu'est-ce que le kikalakasa, c'est bien. Mais il est très, il a une teneur très élevée en protéines. Hein. Il fait poids frais, donc c'est-à-dire pour 100 grammes de kikalakasa frais, vous avez 7,1 grammes de protéines. Alors si vous le laissez sécher, parce que dans certaines tribus, on le sèche et on le garde sécher, alors là vous arrivez à du 39% de protéines, ce qui est à peu près autant que le soja, hein, c'est formidable. Et ce sont de bonnes protéines, le professeur Benba avait fait des études dans son labo, et ce sont de bonnes protéines qui sont facilement assimilables, donc de ce côté-là. Mm-hmm. Donc, alors, en plus, c'est une plante qui est lactogène ou galactogène, c'est-à-dire que c'est conseillé aux jeunes mamans qui n'ont pas assez de lait, ou bien qui veulent continuer une lactation en longue. Il suffit qu'elles en prennent un plat tous les deux jours et elles vont continuer. On n'a pas fait d'essais pour voir si la personne peut continuer pendant combien d'années, mais enfin, si elle ment pendant 2-3 ans, sans problème.
Bien, professeur, nous avons un auditeur en ligne depuis Kindu, dans la province du Maniema. Il s'appelle Gabriel et nous allons l'accueillir. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, M. Zévi Kanchama. Bonjour aussi à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio. Ça fait chier la chaîne de M. Zévi Kanchama.
Voilà, on vous écoute.
J'ai une unique préoccupation à poser à notre invité. Les grosses personnes là évitent de manger les aliments là qui sont trop sucrés. Ils disent que non, ces aliments là peuvent engendrer pour eux la diabète. Est-ce que cela est vrai?
Merci, professeur.
C'est qu'on conseille de ne pas avoir une alimentation trop sucrée. Alors, c'est déjà pas bon parce que ça peut amener aussi à l'obésité. Vous suivez peut-être une des campagnes aux États-Unis et ailleurs contre les boissons sucrées, qui justement font que, je ne sais pas, un Américain sur trois a la tendance à l'obésité, ce qui est très mauvais pour le cœur, entre autres. Bon. Alors, maintenant, vous vous posez la question par rapport au diabète. De fait, on conseille aux gens qui sont peut-être un peu à la limite, dont le taux de glucose dans le sang s'approche tout doucement. De 224 ou 128, je ne sais plus exactement, qu'on ne peut pas dépasser, eh bien, on leur conseille de plutôt être, d'en prendre peu, parce que sinon, ça peut accélérer.
Donc, de prendre des boissons sucrées avec modération.
Non, je ne parle pas de boissons sucrées, du sucre.
Du sucre.
Le fait que vous preniez soit de boissons sucrées, soit que vous mettez beaucoup de sucre dans votre thé ou dans votre tisane, etc. Ou bien que vous mangez tout le temps des gâteaux ou des sucreries, bon, ben ça fait monter, comment dirais-je, le taux de votre glucose. Et si vous avez une tendance à aller vers le diabète, ben ça pourrait accélérer l'apparition de la maladie.
Bien. Un autre auditeur en ligne, il s'agit de Bosco, il nous appelle de Kisangani. Bonjour Bosco.
Oui, bonjour Jody, je salue aussi notre invité.
Oui, on vous écoute.
Oui, je veux savoir... Ma première préoccupation est la suivante. Est-ce que la consommation excessive de la viande dans la jeunesse peut causer dans la vieillesse la maladie appelée le rhumatisme?
Et la seconde
est que si maintenant la personne souffre du rhumatisme, y a-t-il des aliments qu'il peut consommer pour en finir cette maladie?
Merci. Professeur Jacques.
Oui.
Voilà, il dit, est-ce que consommer beaucoup de viande dans sa jeunesse peut occasionner le rhumatisme? Si oui, alors...
Ah, le rhumatisme.
Oui, qu'est-ce qu'il faut prendre quand on souffre de cette maladie?
Oui. Donc, c'est évident qu'on ne doit pas manger trop de viande, surtout de viande rouge. Hein. Ça, c'est déconseillé coûte que coûte. Donc, l'apport de protéines animales doit... On pourrait même s'en passer. Vous voyez qu'en Inde, par exemple, ils ont une culture, beaucoup sont végétariens. Et alors, à ce moment-là, il y a moyen d'être en très bonne santé. Hein? Des gens comme Gandhi étaient végétariens. Maintenant, alors, il faut s'y connaître. C'est-à-dire que
quand vous mangez des protéines animales, elles ont exactement le même équilibre d'acides aminés que vos protéines à vous. Donc vous parvenez à les synthétiser facilement. Tandis que quand vous prenez des protéines végétales, vous devez choisir pour refaire l'équilibre. Bon, c'est un peu plus compliqué pour le milieu diététique, mais en Inde ou ailleurs, là où ils sont végétariens, ils connaissent cela et ils se sentent très bien. Alors on recommande en fait de ne pas prendre que trop. Si vous venez quand même prendre des protéines animales, ce qui est habituel dans nos habitudes, essayez de prendre plus de poissons. Mm-hmm. Le poisson, en général, a moins ce qui est du poisson qui n'est pas gras. Hein. Le poisson gras a d'autres avantages, il peut aussi donner certaines vitamines. Mm-hmm. Enfin bon, là il faut. Souvent le problème c'est de ne pas exagérer. Il faut toujours tout faire avec beaucoup de modération. Alors maintenant, pour vous dire si les risques de rhumatisme dans la vieillesse sont plus grands, là, honnêtement, je ne saurais pas vous le dire. Maintenant, vous dites qu'on a un rhumatisme...
Oui, professeur. Lorsqu'une personne souffre de rhumatisme, quels sont les types d'aliments à éviter et quel type d'aliments prendre?
Oui. Je suis moi-même un tout petit peu rhumatisme, j'étais pas mon rhumatologue et il ne m'a rien donné comme conseil alimentaire. Mmh. Donc là je ne saurais pas non plus vous improviser une réponse. Mais je sais que les produits qui contiennent de l'acide oxalique, en général, on les déconseille.
Voilà. Mais actuellement, professeur, vous savez, on parle beaucoup plus des fast-foods, de certains aliments que les gens achètent en cours de route ou des surgelés. Et certains pensent que tous ces aliments-là sont à la base de la multiplication de certaines maladies. Alors, ils disent qu'il faut manger naturel.
Oui, c'est ça. Alors, dans ces fast-foods, il faut voir deux choses. Il faut voir, d'une part, ce qu'il y a dedans. Trois choses. Mais ce qu'il y a dans l'aliment, est-ce qu'on vous a mis beaucoup de graisse, il faut pas exagérer les graisses, c'est pas bon non plus. Il faut voir si on vous a mis de viande qui était déjà un peu avariée, quoi. Donc il y a la composition qui est un premier point que l'on peut pas toujours contrôler. Hein. Il y avait des gens qui mangeaient des brochettes près d'une maternité et quel a été leur étonnement d'apprendre qu'ils mangeaient du placenta humain. Donc là, il faut être assez prudent. Ça, c'est d'une part, donc, ce qu'on a dedans. Alors, il y a aussi la conservation. Mmh. Vous avez notamment des magasins où tout est bien conservé, ou bien des petits restaurants où tout est très propre, mais vous avez aussi d'autres choses où il n'y a pas l'hygiène à l'heure à ce moment-là, ou bien où les choses sont exposées depuis le matin. Il y a un travail qui avait été fait à la faculté d'agronomie, quelqu'un avait étudié la concentration des microbes sur les aliments exposés le long de la route, mais sans couvercle, donc sans plastique pour les recouvrir. Alors, il en a pris le matin, le midi, le soir, mais le soir, la quantité de microbes de tous sortes, c'était vraiment, avait augmenté de façon vertigineuse, ces aliments. Donc, là, c'est la deuxième chose. Mais, alors, le fait de le manger, le fait de fast, de manger vite, et ça, ce n'est pas bon pour l'estomac. L'estomac a besoin qu'on le respecte et qu'on ne lui expédie pas à toute vitesse comme ça un aliment tout en marchant, tout en courant, etc. Bon, quand on est jeune, on le supporte, mais alors justement, plus tard, on peut développer des maladies d'estomac.
Bien. Deux auditeurs en ligne, Bertrand nous appelle de Kinshasa et Modeste et Calémy. Vous voulez également participer, composez le 081-890-6394.
Votre connexion internet est trop longue? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Quel est l'impact de l'alimentation sur le mode de vie? Bertin, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bertin, bonjour.
Bonjour la radio Papi, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs.
Oui, Bertin, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai entendu l'invité parler de Kitalakasa. Il n'y a pas un autre nom en français, écoute, moi je ne connais pas.
L'acacia, oui, on parle du pois carré africain.
Le pois carré africain.
Pois carré africain. Alors, si vous êtes scientifique, c'est Psophocarpus scandens.
Voilà, c'est trop compliqué, pour faire.
Mais pois carré africain, je ne veux pas trop compliqué.
Oui, c'est
on l'appelle pois carré parce que les gousses ont une section carrée avec quatre ailerons aux quatre angles. C'est pour ça qu'on l'appelle pois carré.
Pois carré.
En anglais, ils disent wing bean, donc ils appellent ça un haricot ailé à cause des quatre ailerons qui sont là, le long de la gousse.
Mmh. Bien, Modeste, vous êtes à Caligny, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Modeste.
Bon, je dis, j'ai deux préoccupations qui me semblent pertinentes mais importantes pour moi.
Oui.
La première, je voudrais demander à l'invité, est-ce qu'il y a une meilleure alimentation identique pour toute la République démocratique du Congo ou l'alimentation dépend d'un milieu à un autre? La deuxième, je dis, pourquoi la plupart des Congolais, quand ils se rendent en Europe, et s'ils sont soumis aux tests, on les retrouve avec un retard d'alimentation, pour ne pas parler de tous les Africains en général.
Avec un retard d'alimentation.
Oui.
Vraiment, l'homme fait partie de son milieu.
Il le domine, si vous voulez, comme être spirituel, mais nous faisons partie de notre milieu, et donc nous avons, des échanges avec notre milieu, et donc il est assez normal et sain de se nourrir à partir des aliments locaux qui sont poussés sur la terre où nous sommes. Mmh. Et maintenant, les écologistes, en plus, ajoutent un argument, c'est que quand vous prenez des aliments qui viennent de loin, eh bien, ces aliments ont dû parcourir des milliers de kilomètres, comme c'est le cas du poulet. On peut reprocher d'autres choses ailleurs. Oui. Mais le fait que les aliments viennent de très loin, on a dû donc utiliser des carburants pour les transporter jusque chez vous. Et donc, de ce fait, l'empreinte humaine est encore plus grande. Donc, le réchauffement climatique, le changement climatique est encore plus grand. Donc, maintenant, il y a une certaine norme. On dit essayer de ne manger que des aliments qui viennent d'un rayon au plus de 100 km, 120 km. Et donc, vous voyez, ça exclut déjà pas mal, presque tout ce qui est importé.
Et il disait, est-ce qu'il y a une meilleure alimentation identique partout à travers le pays ou ça dépend de chaque milieu?
Et non, alors donc, si on applique ce principe général, donc chaque, vous devez, selon votre terroir, voir ce qui pousse comme légumes, voir ce qu'il y a comme arbres, voir ce qu'il y a comme fruits, voir aussi ce qu'il y a comme, si vous êtes le long, si vous êtes à Mwanda, n'hésitez pas à manger des crevettes ou des fruits de mer, et donc, c'est ça, non, c'est bien donc de faire, de se nourrir de ce qui existe dans un rayon assez proche.
Bien. Et il dit, d'après Modeste, la plupart des Africains, ou Congolais en particulier, qui vont en Europe, après des examens, on dit qu'ils ont un retard au niveau alimentaire.
Ils ont un retard.
Oui, d'alimentation, et c'est vrai ou pour le professeur?
Alors, c'est-à-dire que si vous, donc il y a des gens qui arrivent, qui ont une alimentation ici, ben, s'ils ont eu une mauvaise alimentation, bon, ils auront ce retard. C'est-à-dire que, oui, si quelqu'un, par exemple, un enfant est coiffé-coré, au moment où il prend l'avion pour aller en Europe, ben, quand il arrivera en Europe, on dira qu'il est coiffé-coré. Alors là, ça dépend si vous avez une alimentation équilibrée ou pas équilibrée.
Mais,
le fait de venir d'un pays, par exemple, au Mexique, on avait comparé il y a quelques années le petit déjeuner d'un enfant mexicain et d'un enfant new-yorkais sur mais d'un enfant mexicain qui est dans un village traditionnel, mais tout à fait bien, pas dans la misère. Eh bien, c'était l'enfant mexicain qui avait le petit déjeuner le plus équilibré par rapport à l'enfant new-yorkais qui mangeait tout des histoires déjà emballées, etc., qui étaient souvent faites avec des déchets, etc.
Oui. Donc, on retient qu'il faut manger naturel, en professeur.
Oui, bon, il est bon de manger naturel, mais il faut manger de façon équilibrée. Il y a des gens qui ne font que manger du foufou matin et soir, pendant 7 jours de la semaine, ils ne doivent pas s'attendre à c'est pas une alimentation équilibrée.
Le professeur, peut-être que le foufou, c'est
une alimentation. Tous les diététiciens vous diront qu'une alimentation pour être équilibré, doit être très varié, parce que chaque aliment contient des éléments de base et puis des éléments secondaires, et ces éléments secondaires sont nécessaires pour l'homme, mais on ne trouve pas tous dans le même aliment. Donc, si vous pouvez changer 3 ou 4 fois par semaine d'alimentation, c'est mieux que d'avoir chaque jour votre foufou, chaque jour vos pommes douces. Ne vous attendez pas à être en bonne santé si vous faites ça.
Spina nous appelle des Kindou, bonjour.
Bonjour, je dis.
On vous écoute, Spina.
Oui, bon, la question que j'avais à poser à l'invité, c'est parce que je connais présentement un problème qui me passe sûrement à l'esprit.
Oui.
J'ai un petit temps d'âge. Je souffre de l'hypertension, selon ce que mon médecin m'a dit. Alors, lorsque je lui ai posé la question comment j'ai attrapé cette maladie, il m'a dit tout simplement de faire attention à l'alimentation. Bon, finalement, je ne comprends pas. Je connais que les maladies, toutes les maladies, la source est infectieuse. Bon, est-ce que l'invité peut m'aider à comprendre comment, par quel mécanisme attrape l'hypertension? En fait, je ne comprends pas. Ne pas manger, c'est on risque de mourir. Vous mangez, on vous dit, vous souffrez de l'hypertension. C'est vraiment ce que je pense à l'esprit.
Fina, alors dites-nous, qu'est-ce que vous mangez souvent, régulièrement?
Non, mais je mange les poissons, les légumes également.
Les poissons et les légumes, régulièrement.
Oui.
Oui. Professeur,
une alimentation intéressante. Mais vous voyez, je pense, d'abord, vous avez dit que toutes les maladies avaient une origine infectieuse. Ça, ce n'est pas tout à... Donc, ça, ce n'est qu'une partie de la vérité. Donc, il y a des maladies infectieuses qui de fait, viennent de microbes, mais il y a d'autres maladies. Tout à l'heure, on disait que, par exemple, il faut avoir une vie saine, il faut pouvoir avoir une vie active. Si quelqu'un est bloqué devant son ordinateur ou devant sa télévision, disons 15 heures par jour, bon, c'est normal qu'il ne va pas avoir, ce n'est pas une vie saine, et donc il y aura des répercussions. Alors, l'hypertension peut venir de plusieurs sources. Il y a des gens qui, de par leur naissance, ils verront que leurs parents ou leurs grands-parents, ou certains de leurs parents ou grands-parents étaient déjà hypertendus depuis la jeunesse. Donc ça, il y a des gens qui ont une tendance, donc naturelle, héréditaire, à l'hypertension. Mais, alors, l'alimentation, elle, si elle est saine, va, disons, diminuer cette hypertension, mais si elle est malsaine, si vous mettez beaucoup de sel sur tout ce que vous mangez, etc., peut-être le médecin ne vous a-t-il pas suggéré d'un peu diminuer la quantité de sel dans vos aliments?
Ben, voilà, il n'est plus en ligne, sinon il aurait... il n'est toujours en ligne. Fina,
oui.
La question du professeur, est-ce que le médecin ne vous a pas suggéré de diminuer un peu la quantité de sel dans vos aliments?
Exactement, il m'a dit de manger les aliments non salés.
Voilà, ben voilà. Et je pense que si vous aviez au contraire avant l'habitude de les saler trop, ben vous allez voir que ça va déjà être un facteur qui va diminuer l'hypertension. Alors il y a aussi des aliments qui sont connus pour être plus sauts. Par exemple, on dit que l'ail et les oignons ont tendance aussi à combattre l'hypertension. On dit aussi que le moringa aurait cette vertu. Donc là, ce sont des choses qu'il faudrait vérifier. Mais donc, c'est vrai que l'alimentation peut soit accentuer, soit freiner votre tendance à l'hypertension.
Mais professeur, vous parlez du moringa. C'est quoi le moringa?
Bien, le moringa est une plante indienne, un arbre indien qui est en train d'envahir l'Afrique depuis 150 ans en arrivant par la corne de l'Afrique et, disons, depuis 10-20 ans, maintenant, il est arrivé aussi en République démocratique du Congo. Alors, il a deux caractéristiques. D'abord, c'est un arbre pharmacie en Inde, on l'utilise, les feuilles, les racines, etc., pour traiter beaucoup de maladies. Mais peu de gens ont des livres venant de l'Inde et faits par des médecins pour dire exactement en quoi on peut l'utiliser. Donc là, personnellement, je n'oserais pas trop vous dire qu'est-ce qu'il faut utiliser pour telle ou telle maladie. J'ai cependant eu une infirmière qui a soigné
sa belle-mère qui avait des hypertensions en lui donnant chaque jour du moringa, et elle m'a affirmé qu'elle avait suivi ça scientifiquement et qu'après 3 mois, c'était une glycémie, pardon, c'était pas de l'hypertension. C'est aussi connu comme étant bon. Il y a aussi alors des légumes locaux, vous connaissez le solo, la petite aubergine.
Oui, le solo.
Bon, c'est aussi connu dans le milieu de médecine traditionnelle qu'il est bon d'en manger pour diminuer la tension. Donc là, il faut voir, il faut essayer de trouver une alimentation qui va donner une place. Alors, vous me posez une question sur le moringa, j'y reviens. Le deuxième aspect de moringa, c'est que c'est un arbre, c'est un arbre légumier. Il n'y a pas beaucoup d'arbres légumiers. Simplement des arbres d'ombrage, pour donner du bois de chauffe, ou alors des arbres fruitiers, mais des arbres légumiers qui donnent directement des légumes et des légumes feuilles. Il n'y en a pas tellement. Or, justement, les moringa a des feuilles qui contiennent autant ou plus de protéines que le kikalakasa, que le fondu, etc.
Mais donc, cette plante, apparemment, oui, est-ce que le moringa est vulgarisé, professeur?
Alors, bon, il y a pas mal d'endroits où on est occupé à le vulgariser. C'est une mode, parce que notre ONG qui travaille dans les parcelles, nous constatons qu'il y a telle paroisse qui fait de la publicité pour Moringa, telle ONG qui fait de la publicité pour Moringa, et des gens se sont mis à en planter, mais beaucoup avec simplement l'idée de savoir, il paraît que ça soigne sans maladie, alors maintenant, ils voudraient savoir lesquelles. Et là, il faut être prudent, parce que, entre autres, surtout pour les racines de Moringa, il y a certaines substances toxiques. Il ne faudrait donc pas
commencer
sur la consommation des racines sans grande précaution.
Oui.
Là, il faudrait vraiment qu'on se procure des livres de médecine venant de l'Inde, où cette plante est étudiée depuis des millénaires, et où la médecine moderne l'a sûrement étudiée, avant d'oser donner aux gens des conseils.
Oui, professeur Jacques.
On voit trop de gens qui arrivent aux cliniques universitaires avec des blocages rénaux dus au fait qu'ils ont pris des plantes médicinales sans tenir compte des doses. Ou alors certains même qui prennent des doses doubles ou quadruples pour guérir 2 fois ou 4 fois plus rapidement. Alors vous voyez, ça donne ce que ça donne.
Oui. Alors professeur, deux autres auditeurs en ligne, Ilunga nous appelle Maggie et Benjamin de Kinshasa. Ilunga, bonjour. Ilunga, vous êtes en ligne. Oui, bonjour Ilunga de Maradi, on vous écoute.
Non, c'est pas Ilunga, c'est Benjamin.
Benjamin, vous êtes à Kinshasa, il y a également Ilunga qui est en ligne à Maradi, on va commencer par lui. Benjamin, veuillez patienter. Ilunga, bonjour. Ilunga, vous...
Oui, bonjour. Il y a une correction, je vais faire justement une correction parce que je m'appelle le professeur Allonger Lemay. C'est le nom que vous voulez déranger, moi journaliste.
Vous dites que vous appelez professeur comment?
Je m'appelle le professeur Allonger Lemay à partir de Magia.
Ok.
Lemay, c'est en français.
Ok, professeur, quelle est votre question?
Ma question, c'est seulement de savoir, je pose à l'invité, qu'une bonne alimentation doit contenir quel élément, surtout la première préoccupation. Deuxième préoccupation, les enfants qui, surtout qui marchent à 4 pas, ils mangent par pas de terre. Est-ce que la terre là donne quel impact surtout sur la santé de l'enfant? Troisième préoccupation, que l'invité me donne un peu un aliment qui est riche surtout en minéraux. Tel que moi je connais par exemple, l'arachide est riche en calories, le haricot aussi riche en calories, maïs riche en calories, le riz riche aussi en calories, alors qu'il me donne un peu un aliment qui est riche en minéraux maintenant.
Merci.
Alors, je demanderai en plus si ceci me donnait quelques aliments qui sont complets. Et l'enfant qui mange surtout à 4 pattes, qui n'a même pas la condition hygiène, quelle est surtout la maladie qu'il va mettre en contact à manger surtout la terre? Alors, je n'ai pas salué les unités de radio au café, je vous salue aussi l'animateur de l'antenne.
Merci, professeur Allonger de Maradi. Benjamin, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je salue tous les auditeurs de la radio Capi. Alors, j'allais intervenir pour compléter les professeurs sur 2 points. Le premier point, c'est sur la consommation des sucres. Il y a un ami qui avait posé une question sur les sucres. En fait, une personne qui a l'habitude de manger le sucre, ça fait lui conduire à développer le diabète. Comment cela ça peut s'expliquer? C'est comparable à un camion lorsqu'il y a les noyades. En fait, une personne qui consomme le sucre, il arrivera un moment au lieu que le sucre soit brûlé, il y a l'excès de sucre dans le sang, ce qui peut conduire à la personne de développer le diabète.
Oui.
En ce qui concerne l'hypertension, il est conseillé de cette personne de ne pas manger la nuit. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez manger la nuit, en fait, les aliments seront, ça va se transformer en graisse.
Oui.
Et ces graisses vont se déposer dans les veines et ça va rétrécir les veines. Et une fois les veines sont rétrécies, ce qui va augmenter la pression du sang, c'est-à-dire le sang va couler à grande vitesse,
oui.
C'est comparable à un robinet. Lorsque la pression diminue, il y a l'augmentation de la pression de l'eau. Et c'est ce phénomène-là qui fait que c'est l'augmentation de la tension. Donc, il faudra manger généralement la journée parce que à ce moment-là, le corps va utiliser normalement les aliments.
Alors, Benjamin. Oui, alors Benjamin, dites-nous, alors il faut par exemple arrêter de manger à quel moment? À quel moment? Oui, Benjamin, voilà. Depuis en ligne, professeur, vous avez suivi Benjamin.
Non, il a raison, c'est-à-dire que les diététiciens disent que normalement on devrait faire le plus gros repas au petit déjeuner, au dîner un repas moyen et le soir un repas léger.
Mmh.
C'est-à-dire que, comme il l'a expliqué, ce que l'on digère, au fur et à mesure qu'on le digère, les énergies sont utilisées par, si on marche, si on fait du sport ou des travaux, au fur et à mesure que la digestion libère du sucre, du glucose, il est tout de suite utilisé. Mais quand on est, disons, à 2 heures d'aller au lit, on n'aura plus pendant les 2 heures de quoi consommer.
Alors, professeur,
de façon légère.
Professeur Jacques, si l'on consomme beaucoup de graisse, mais on fait du sport, ça permet de brûler toute la graisse?
Ben oui, donc la graisse se retransforme en sucre lorsque il n'y a plus assez de sucre dans le sang. C'est une manière de mettre le sucre en réserve, la graisse. Alors, normalement, on ne doit pas, surtout dans des pays chauds comme ici, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de graisse pour nous protéger du froid. C'est un autre problème dans les pays froids où là, il faut avoir un peu de graisse pour éviter de perdre toutes ces calories quand il fait froid. Mais je crois qu'il faut éviter, donc la graisse, on peut en manger un peu. Vous savez, le tout, c'est de tout faire avec mesure et puis aussi de se connaître.
Bien, on va terminer avec la question du professeur Allongé de Maggie. Il a dit, une bonne alimentation doit être composée de quels éléments? Et puis, un enfant qui mange la terre, est-ce qu'il y a des dangers? Et puis, il pose la question de savoir quel est l'aliment riche en minéraux.
Oui, normalement, il faut qu'il y ait des glucides, des lipides et des protéines. Les glucides, ce sont les sucres, les amidons. Des protéines, ce sont les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Ou bien des champignons qui donnent aussi une bonne source de protéines. Les glucides, protéines, et donc il y a les lipides, les graisses, il en faut aussi un peu. Alors maintenant, il faut en plus de ça des sels minéraux. Par exemple, si une femme enceinte qui doit donc trouver le calcium pour pouvoir construire le squelette de son bébé, de son fœtus, a besoin de manger plus de calcium qu'une personne qui n'est pas enceinte. Par exemple, donc, l'alimentation doit être bien et l'apport de sels minéraux doit tenir compte de la situation. De chaque personne. Les femmes qui sont déjà à la ménopause aussi ont une tendance à se décalcifier, donc elles doivent aussi veiller à avoir une alimentation riche en calcium.
Et quels sont les aliments riches en minéraux, professeur?
S'il vous plaît?
Les aliments riches en minéraux, c'est la question.
Les aliments, tous les légumes et tous les fruits ont une certaine quantité de minéraux. Alors, il y a des tables qui vous diront que pour tel minéral, c'est surtout tel. Par exemple, si vous cherchez du potassium, vous mangez des bananes. Si vous cherchez du calcium, je sais qu'en Afrique de l'Ouest, ils mangent les feuilles de baobab. Les jeunes feuilles de baobab sont un bon aliment assez riche en calcium. Et vous avez le lait aussi qui est assez riche en calcium.
Bien. Alors, professeur Jacques Paulos, on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous rappelons que vous êtes biologiste et environnementaliste. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci et bonne soirée. Bon après-midi.
Oh,